L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La parabole du filet ». C'est notre quatrième émission et je bénis grandement le Seigneur pour cela. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter toujours, encore une fois, à prier, à dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Laissons la tête dans la prière. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons devant toi. Nous venons te dire merci pour le souffle de vie, ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ton salut qui se trouve en Jésus-Christ. Père, nous ne sommes que des serviteurs et nous voulons transmettre ton message, Père. Nous n'avons pas d'importance, mais nous voulons que toi, Seigneur, tu nous guides, que tu nous instruises. Après tout, c'est ta parole, c'est toi qui sauves, c'est toi qui délivres, Père. Parle à chacun d'entre nous, fais du bien à chacun d'entre nous, éclaire chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La parabole du filet. Dans Matthieu 13, 47 à 51, nous lisons ceci. Matthieu 13, 47 à 51. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Lorsque nous comparons le royaume des cieux au royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est tous ceux qui prétendent appartenir à Christ. Tandis que le royaume de Dieu, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau et qui appartiennent réellement à Christ. Lorsque vous comparez royaume des cieux et royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est l'ensemble du monde chrétien. Royaume de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux qui appartiennent réellement à Jésus-Christ, qui ont fait une expérience de nouvelle naissance et qui, dans leur vie de tous les jours, marchent avec Jésus-Christ. Mais lorsque vous mettez royaume des cieux à part, vous ne le comparez pas au royaume de Dieu, comme il y a d'autres versets bibliques. Par exemple, Jésus dit « Le royaume des cieux est proche ». Là, c'est l'image du royaume des dieux, du royaume de Dieu. C'est vraiment le royaume de Dieu. Mais lorsqu'on compare royaume des cieux et royaume de Dieu, le royaume des cieux descend et le royaume de Dieu est un peu plus haut. Parce que le royaume de Dieu est maintenant l'ensemble de ceux qui appartiennent à Christ. Tandis que le royaume des cieux, c'est l'ensemble du monde dit chrétien. Les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les témoins de Jéhovah, les foi baha'i, les mormons, toutes ces sectes qui prétendent appartenir à Jésus-Christ, qui suivent Jésus-Christ, qui prétendent, mais qui... dans la foi biblique ou à la lumière de la parole de Dieu ne le sont pas. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Peut-être que certains vont se dire, comment je peux faire pour savoir que je suis dans la bonne communauté et que ce qu'on nous enseigne est réellement la parole de Dieu? Ouvrez votre Bible, procurez-vous une Bible, mettez tous les livres, mettez tous les enseignements qu'on vous donne dans votre communauté de côté. Prenez la Bible, lisez-la d'un bout à l'autre. Et voyez si tous les enseignements qu'on vous donne sont conformes à ce que la Bible enseigne. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas, telles que le salut de Jésus-Christ, le salut par grâce, le pardon des péchés, le pardon de tous les péchés. Je ferme la parenthèse. Donc, ceux qui appartiennent à Christ font partie du royaume de Dieu. Et ceux qui ne l'appartiennent pas, ne font pas partie du royaume des dieux, mais du royaume des cieux. Nous avons dit dans les émissions précédentes que le péché est la chose qui nous sépare de Dieu. Quoique baptisé dans une église, quoique membre d'une église, quoique possédant une carte de baptême, une carte de membre, quoique étant le grand donateur de la communauté, participant à toutes les campagnes évangéliques, à toutes les campagnes d'évangélisation, cela ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce qui vous démarque des pécheurs, c'est votre vie de sanctification. J'aimerais que nous revenions un peu dans Apocalypse 22, que nous avons lu la fois précédente, à l'émission précédente. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus dit, la Bible nous dit, qu'il veut, que Dieu veut une démarcation entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. C'est bien de crier, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Mais vous savez, il y a de ces chrétiens qui disent « Je suis chrétien, mais non pratiquant ». Ça veut dire qu'en fait, vous êtes païen, vous êtes un inconverti. Il y a certains qui disent « Ben écoutez, j'ai fait la nouvelle naissance, j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Je suis même baptisé du Saint-Esprit, j'ai même prêché l'Évangile. » Certains même vous diront « Vous savez, dans tous ces pays fermés, j'ai participé à l'expansion de l'Évangile. » C'est une très bonne chose. Mais le problème est, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Entre guillemets, de ces vieux convertis. Nous avons besoin d'une huile fraîche. Nous avons besoin d'un renouveau. Nous avons besoin d'un réveil. Nous n'avons pas besoin des monuments. Non, nous avons besoin de ce qui est nouveau, de ce qui est vrai, de ce qui est vivant. C'est bien de nous dire, bah, écoutez, je suis né de nouveau il y a 30 ans. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois. C'est beau. Mais quelle est votre vie aujourd'hui? Parce que si vous êtes retourné dans le péché, si vous êtes retourné dans l'impudicité, dans le vol, dans le meurtre, dans la colère, dans la fornication, dans l'adultère, dans la pornographie, dans l'homosexualité, le lesbinage, dans l'occultisme, votre nouvelle naissance il y a quelques années ne vous sert à rien. Au contraire. Votre condamnation est plus grande, votre responsabilité est plus grande. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui soient réveillés, dans ces temps de la fin. Et Jésus nous dit, il faut une démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le monde doit voir au travers de moi, au travers de ma manière de penser, au travers de ma manière de m'habiller, au travers de ma manière de parler, au travers de ma manière de me comporter, que je reflète Jésus-Christ. Et même ça, il faut que moi-même, à l'intérieur, je sois conscient. Parce que si notre conscience nous condamne, il faut venir à Jésus-Christ. Il y a certains qui essaient de tuer leur conscience, de continuer à vivre dans le péché. D'autres même qui commencent même à justifier leur péché au travers de la Bible. La Bible ne dit-elle pas, la Bible ne montre-t-elle pas, la Bible ne prouve-t-elle pas? Non! Si votre conscience vous dit que vous avez mal agi, alors revenez à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a tellement de sectes bizarres, il y a tellement de communautés bizarres, où on prêche un Jésus-Christ qui n'a rien de biblique. On prêche un Jésus-Christ qui vit dans le péché. On prêche un Jésus-Christ qui approuve l'homosexualité. On prêche un Jésus-Christ qui approuve le mensonge, le vol, le meurtre, l'avortement. Non, Jésus-Christ n'est pas ainsi dans la Bible. Et mon frère, ma sœur, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Plusieurs fois, nous l'avons lu dans les émissions précédentes, Paul nous fait cette recommandation. Sachez-le bien, ne vous laissez pas séduire, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, mon frère, ma sœur. Moquez-vous d'un homme. Il n'y a pas de problème, on peut s'entendre. Mais si vous passez votre vie à vous moquer de Dieu, vous dites une chose, mais votre cœur est éloigné de Dieu. Vous dites que vous aimez Dieu, mais votre cœur est éloigné de Dieu. La Bible nous dit qu'il y aura un jour où Dieu va faire le tri, va faire la séparation. Il vaut mieux que cette séparation vienne déjà de nous-mêmes, qu'en nous-mêmes on sait ça, Dieu n'aime pas ces choses. Ça, Dieu n'approuve pas. Je me sépare déjà de ces choses. La Bible ne dit-elle pas, sortez du milieu d'elles. Sortons de ce monde pourri, de ce monde qui est en rébellion. Je ne parle pas du suicide, mais de se séparer spirituellement de ces choses, de s'éloigner du péché, de s'éloigner du mensonge, de la fornication, de l'adultère, de la pornographie, du vol, du meurtre, de l'idolâtrie, de ces statues. Éloignons-nous de ces choses, mon frère, ma sœur. Revenons à la Bible. Cette semaine-ci, pendant que je faisais mes petites recherches sur Internet, j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment fait mal. Et je bénis le Seigneur de ce que je sois sorti du milieu de ce style de ce péché. Où des hommes ont mélangé la tradition à la parole de Dieu. Des hommes qui se sont assis et ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, les prières faites aux morts sont acceptables. Les prières faites aux saints sont acceptables. Des prières faites à des dieux, faites en forme de statues, sont acceptables. Alors que la Bible interdit et condamne ces choses. Mon frère, ma sœur, examinons les Écritures. Parce que Dieu a dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Jamais vous n'arriverez devant Dieu, vous direz, Seigneur, mais c'est le pasteur tel qui m'a menti. C'est le pasteur tel. Dieu vous dira, et la Bible, vous ne la connaissiez pas. Vous n'avez jamais entendu parler de l'Évangile. Ceci me fait penser à ce témoignage de sept Colombiens qui ont visité l'enfer. Alors, Jésus faisait visiter l'enfer à une jeune fille parmi les sept, et ils sont arrivés devant un homme de Dieu. Cet homme de Dieu est en train de souffrir. Et Jésus pose la question à cet homme. N'as-tu jamais entendu parler de l'Évangile? Il dit oui, il y a même une femme qui est venue dans ma communauté qui parlait de toi, qui parlait de ton amour, du salut en Jésus-Christ. Mais je disais que c'était des stupidités, je disais que c'était des bêtises. Et je préférais continuer à me servir de l'argent que les fidèles donnaient dans l'église. Et maintenant je suis ici. Et il demandait pardon à Jésus. Jésus lui disait c'était trop tard. Mon frère, ma sœur, examinons les Écritures. Jamais nous n'arriverons, Dieu va dire, écoute, je te laisse entrer au ciel parce que ton pasteur t'avait menti. Non, et vous et votre pasteur qui avez vécu dans le péché, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Bon. Apocalypse 21, verset 8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez, les menteurs, les impudiques, les fornicateurs, les homosexuels, les lesbiennes, les meurtriers, tous ceux qui vivent dans le mal seront loin de Dieu dans l'étang de feu. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21, la Bible nous dit que Jésus dira ouvertement à ceux qui vivent dans le péché, qui ne les connaît pas, qui se retirent d'eux. Lisons un peu, mais dans la version Le Semeur, Matthieu 7, verset 23, je leur déclarerai alors, « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne sont pas de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je disais que lorsqu'on compare le royaume des cieux au royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est l'image de tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Qui disent « Seigneur, que Jésus je le connais, Jésus je le sers, Jésus c'est mon Dieu, Jésus c'est mon Seigneur, Jésus c'est mon Sauveur, Jésus c'est mon bon berger, Jésus c'est mon ami. » Ils disent tout ça. Mais ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, ce sont ceux qui disent la même chose, mais qui dans leur vie de tous les jours l'appliquent. Ils disent que vraiment Jésus-Christ est leur Seigneur et ils appliquent la parole de Dieu dans leur vie de tous les jours. Ils n'appliquent pas les commandements de leur église, les commandements de leur communauté. Non, ils appliquent la parole de Christ dans leur vie de tous les jours. Jésus dira, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Apprenez-leur enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, enseignez-leur à mettre en pratique mes commandements, pas les commandements de la communauté catholique, de la communauté protestante, kimbanguiste, témoin de Jéhovah, foi bahaï, émouniste et je ne sais quoi. Non, parce que j'étais vraiment choqué de lire que certaines communautés, dans les années passées, dans les siècles passés, se sont assis et sans consulter la Bible, à partir d'aujourd'hui, voilà, Marie est une rédemptrice. Elle peut sauver. Ils se sont assis et ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, les saints peuvent sauver, peuvent intercéder pour les hommes sur terre. Ça m'a fait très mal. Et cela m'a réveillé dans ce sens qu'il faut prêcher l'évangile, il faut annoncer ce qui est vrai, il ne faut pas les contredire, mais il faut apporter l'évangile, réveiller les gens, parce que le diable vraiment est rusé et est en train de détruire la vie des autres. Je voudrais vous inviter à lire Éphésiens 4, 30 à 32. Éphésiens 4, 30 à 32. Éphésiens 4, 30 à 32. Vous y êtes ? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne le rendez pas triste. Comment est-ce qu'on peut rendre le Saint-Esprit triste ? Dans une vie de péché, dans une vie de rébellion, dans une vie d'idolâtrie, dans une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est un impératif, c'est un ordre que le grand Paul donne, mais qui au fait est donné au travers de Dieu. Que toute amertume, animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment attrister le Saint-Esprit ? C'est en vivant dans l'amertume, dans la colère, dans la méchanceté, en ne voulant pas pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait, alors que nous sommes pardonnés en Christ. Mon frère, ma soeur, je voudrais dire ceci. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facile. Jésus-Christ, qui est notre modèle, notre exemple par excellence, n'a pas eu une vie facile, quoi qu'il ait été Dieu, et qu'il était sur cette terre fils de Dieu, Dieu lui-même, il n'a pas eu une vie facile. Paul non plus n'a pas eu une vie facile. Personne de ceux... Personne de ceux et de celles qui ont marché avec Jésus-Christ ont eu une vie facile. Personne. Et encore plus, lorsque vous marchez avec Christ et que ce sont vos frères, vos sœurs qui vous font du mal, ce n'est pas facile, mon frère. Ce n'est pas facile, ma sœur. Pardonner, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est possible. Mais c'est quelque chose de possible en Jésus-Christ. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment attrister le Saint-Esprit ? En ayant de la haine envers son frère. On vient à l'église, c'est vrai. On connaît Jésus-Christ. On a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose, on dit, cet homme qui m'a volé de l'argent, je ne vais pas lui pardonner. Cette femme qui a pris mon mari, je ne vais pas lui pardonner. Ce monsieur qui a pris ma femme, ma maison, mon bien, qui m'a détruit auprès de mon patron, je ne vais pas lui pardonner. Et lorsqu'on cède à ce genre de vie, lorsqu'on cède à ce genre de colère, au fait, le péché commence à entrer dans la vie. Parce que colère et péché sont étroitement liés. La Bible dit, dans Éphésiens 4, 26 à 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous voyez ? En fait, la colère n'est pas quelque chose de mauvais. Mais comme c'est étroitement lié au péché, Il est très rare de retrouver des chrétiens qui sont en colère mais qui ne pêchent pas. Mon propre cas, je vais prendre mon propre cas. Combien de fois j'ai demandé au Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché, parce que je m'étais mise en colère. J'ai crié, j'ai haussé la voix, j'ai claqué de la porte, j'ai tapé du poing. J'ai même des fois insulté, je reconnais, je demande pardon et j'ai toujours demandé pardon à Dieu. Et j'ai même fait un jour une très grande bêtise, il y a quelques années en arrière. Je m'étais mis en colère contre mon supérieur dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Il avait dit des méchancetés, il avait dit des injustices et je m'étais opposé contre ces injustices. Mais comme c'était quelqu'un qui faisait ça régulièrement et que je ne pardonnais pas le mal qu'il me faisait, j'ai, entre guillemets, pété les plombs. Je me suis mis en colère. Je lui ai dit certaines vérités que je n'aurais pas dû dire, que j'aurais pu dire, mais pas de cette manière-là. J'ai claqué de la porte et je suis parti. Je venais juste de finir l'institut biblique. Je suis parti. J'ai démissionné, je suis même pas allé chercher mon dernier salaire. Chose qui était encore pas très sage de ma part. J'ai laissé, 2-3 jours après, je suis allé en retraite. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a commencé à me montrer ce péché qui se trouvait dans mon caractère, la colère. Il m'a dit, tu vois, je voulais que tu finisses l'institut biblique et je voulais que tu commences un ministère à la radio. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et le Seigneur me dira, oui, tu as péché. Non seulement tu t'es vengé, tu t'es mis en colère, tu as dit des choses que tu ne devais pas dire, et voilà maintenant il y a le péché dans ta vie. Tu demandes pardon, tu te réconcilies avec Dieu, et tu prends un nouveau départ. Et entre le moment où j'ai quitté et le moment où j'ai retrouvé un autre travail, il s'est passé 2 ans. Et gloire à Dieu, Dieu ne m'avait pas abandonné. Et après ces 2 ans, j'ai commencé ce ministère à la radio, avec cette émission « Venez à Jésus ». La colère n'est pas une bonne chose, tant qu'elle l'est associée, tant qu'on ne la maîtrise pas, tant qu'on ne la canalise pas, si je puis dire. Parce qu'on peut dire des choses qu'on regrette plus tard. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne gardez pas cette colère en vous le lendemain, le surlendemain, la semaine qui suit, les mois qui suivent. Parce qu'en fait, ça vous détruit vous-même. Pardonnons à ceux et à celles qui nous ont fait du mal. Ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, ceux qui seront avec Jésus-Christ, sont des hommes et des femmes qui ont pratiqué le pardon. Parce que Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Nous qui étions des criminels, des impudiques, des adultères, des fornicateurs, j'allais dire des avorteurs, des hommes et des femmes qui pratiquaient l'avortement, qui étaient dans l'occultisme. Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Mais maintenant que notre frère nous fait du mal, nous aussi nous devons pardonner. Peut-être que vous écoutez ce message et que vous dites « Non, moi je ne vais jamais pardonner ». Si vous ne pardonnez pas votre frère, vous vivez dans le péché. Et vous savez que Dieu ne tolère pas le péché dans notre vie. Nous devons pardonner aux frères et aux sœurs qui nous ont fait du mal. Même si ce sont des inconvertis, nous devons leur pardonner. Nous avons raison de dire qu'ils nous ont fait du mal. Nous avons raison, nous pouvons même les accuser devant Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire seulement. Dieu nous demande aussi de pardonner. Nous devons pardonner aux hommes. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, en d'autres termes, si vous avez de la colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, mon frère, ma sœur. Car sans le pardon de Dieu, nous ne pouvons entrer au ciel. Et vous allez me dire, mais je n'ai pas la force pour pardonner. Celui qui m'a fait du mal, il m'a fait tellement de mal, il m'a pris mon mari, il m'a peut-être même violé. Il m'a fait quelque chose de, d'impardonnable. Où aurais-je la force pour pardonner? Romains 5, verset 5 nous dit « Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez aussi reçu l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Paul commençait par dire « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Pour ne pas attrister le Saint-Esprit, nous devons laisser le Saint-Esprit répandre l'amour de Dieu dans notre vie de tous les jours. Face à ceux qui nous font du mal, qui nous critiquent, qui nous calomnient, qui nous insultent. Des fois même, ce n'est même pas pour l'Évangile. C'est parce que vous êtes peut-être bon, parce que vous êtes gentil avec les autres, parce que vous comprenez les autres. Alors vous êtes calomnié, vous êtes ridiculisé, vous êtes humilié, vous êtes critiqué, vous êtes détesté, parce que vous représentez Christ. On vous déteste. Dieu nous appelle à pardonner et à aimer ses hommes. Parce que si nous ne le faisons pas, alors le diable a trouvé accès dans notre vie. Et le diable va nous retenir le jour de l'enlèvement de l'Église. Le diable va dire celui-là, il est à moi, je le garde, mon frère, ma sœur. Si vous voulez demander pardon à Dieu, et vous voulez dire Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir pardonné aux autres. C'est très simple. Baissons la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ton message, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ton appel. Je te demande pardon. Pardon parce que je n'ai pas pardonné aux autres. Pardon parce que je ne veux que ton pardon à toi, mais je ne veux pas pardonner aux autres. Et j'ai compris aujourd'hui que le manque de pardon, que la colère, si je ne la maîtrise pas, si je ne pardonne pas, me pousse à pécher, me pousse à haïr les autres. Et aujourd'hui, je prends l'engagement de pardonner à tous ceux et à toutes celles qui me font du mal. Merci pour ton sang. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous a pardonné. Mon frère, ma sœur, pardonnons à ceux qui nous font du mal. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du filet. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.